questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. N'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou encore vos questions sur la page Facebook de l'association. Aujourd'hui, suite d'une nouvelle série d'émissions consacrée aux symptômes de la maladie d'Alzheimer et un deuxième épisode consacré aux troubles du langage. Notre invitée pour cette série d'émissions, c'est toujours Judith Mollard-Palacios, psychologue de l'association France Alzheimer. Bonjour Judith.
Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous.
Alors, on associe souvent la maladie d'Alzheimer aux troubles de la mémoire, mais aussi à ceux du langage. Alors du coup, comment se manifeste-t-il et au bout de combien de temps ?
Le « au bout de combien de temps » est très variable d'une personne à l'autre. Les troubles du langage peuvent être très précoces dans la maladie d'Alzheimer ou au contraire, beaucoup plus tardifs. Il n'y a pas véritablement de règles. Ça dépend de chaque individu. Alors, ces troubles du langage se manifestent progressivement et commence par un manque du mot. La personne commence à avoir des difficultés à trouver le bon mot. Alors d'abord quand il s'agit de mots peu usités, elle va avoir de la difficulté à trouver un mot qu'elle utilise peu fréquemment. Et puis, petit à petit, ça va aussi concerner les mots plus usuels, les mots du quotidien. Et là, on va voir la personne éventuellement faire appel au truc, machin, chose, quand il lui manque un mot. Elle peut aussi, avec l'évolution donc de ses troubles du langage, être moins précise dans le choix du bon mot. C'est-à-dire que elle peut, au lieu de parler d'un verre, évoquer une tasse. Enfin, on est dans la même catégorie sémantique, des contenants qui servent à boire un liquide, mais entre verre, tasse, même bol, on sait bien que ça ne désigne pas tout à fait le même objet. Mais voilà, avec l'évolution des troubles, elle va être de moins en moins précise et avoir de plus en plus de difficultés à choisir le bon mot qui désigne la bonne chose. À un stade encore plus évolué de la maladie, elle peut aussi donner un mot, mais qui a la même consonance phonétique. Par exemple, utiliser le mot bateau au lieu du mot gâteau. Là, on n'est plus dans la même catégorie sémantique, ça n'a rien à voir, mais par contre, il y a une ressemblance, une proximité phonétique. Ces troubles du langage vont évoluer et on va voir aussi la personne faire des phrases de moins en moins élaborées, des phrases de plus en plus simples, avec des hésitations évidemment, quand elle a de la difficulté à trouver les bons mots. Et puis dans des évolutions très tardives, des troubles du langage, on peut même avoir une personne qui n'a plus qu'un seul mot à disposition. Et évidemment, ça va devenir difficile de comprendre le discours informatif, ce qu'elle souhaite nous communiquer.
Alors, est-ce que la personne se rend compte qu'elle perd cette maîtrise du langage dans les débuts ? Est-ce qu'elle a envie de dire des choses mais n'y arrive pas ?
Oui, enfin, quand les troubles du langage apparaissent précocement, c'est une très grande souffrance pour la personne malade, parce que échanger, être en relation, communiquer, c'est le sel, c'est le centre de notre vie, des échanges sociaux, familiaux, et c'est une grande souffrance pour la personne. Donc il faut vraiment pouvoir la rassurer, à lui dire qu'on a le temps, qu'elle ait le temps, parce qu'évidemment, plus elle est stressée, plus elle est anxieuse et plus elle va avoir des difficultés à s'exprimer. Donc le climat dans lequel on invite la personne à se trouver pour échanger est extrêmement important. Tout dépend, je pense à un monsieur qui me disait que quand il avait des conversations avec des amis, avec la famille, ça se passait bien, mais quand il devait appeler une administration, avoir une communication avec un enjeu plus important, il préparait, il écrivait à l'avance les questions qu'il voulait poser, parce que là, il y avait un enjeu plus important pour lui et qu'il savait que dans ces situations-là, il pouvait plus facilement encore perdre ses moyens.
C'est ce que j'allais vous demander, Judith. Est-ce que ça empêche, ces troubles du langage, la personne malade de s'exprimer? Même si le langage est le canal principal, il y a peut-être d'autres façons de le faire. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ce sont des solutions un petit peu pour aider ces personnes?
Oui, alors il y a plusieurs choses. Enfin, on peut lui prêter des mots quand on sent qu'un mot est difficile à trouver, qu'on a à peu près compris le contexte dans lequel ce que nous dit la personne. On peut prêter des mots en lui demandant de valider. En effet, il s'agit du bon mot. Et puis on peut, il y a la communication verbale, bien sûr, qui fait nos relations, mais il y a aussi toute la communication non verbale qui est aussi extrêmement importante, c'est-à-dire analyser le ton de la voix, les mimiques, la gestuelle, le regard, et on pourra toujours en dire quelque chose de ça, on pourra toujours en comprendre quelque chose, même si la personne n'arrive plus à nous communiquer avec des mots un message informatif, quelque chose, on pourra toujours comprendre l'intention, l'émotion qui sous-tend ce message. Et ça, on pourra toujours lui dire qu'on a compris quelque chose de ça. Peut-être de lui dire, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a embêté, que tu voudrais nous exprimer, que tu n'es pas content. Enfin, on peut dire qu'on a compris quelque chose du message non-verbal. Et ça permet à la personne de sentir qu'elle est encore un interlocuteur avec qui l'on peut échanger, qui est considéré comme quelqu'un avec qui on peut communiquer. Tout ce qui est communication non-verbale est extrêmement important. Et puis, nous, on peut parler à la personne, lui dire, c'est pas parce qu'elle ne peut plus communiquer avec des mots que nous ne pouvons pas lui adresser des messages, d'ailleurs comme on le fait avec des bébés, des tout jeunes enfants qui n'ont pas encore acquis le langage, c'est pas pour autant qu'on ne leur parle pas, qu'on n'utilise pas le langage pour échanger, partager, apaiser.
Justement, j'allais parler de cet entourage. Quel conseil peut-être donner aux aidants, aux proches, quand ils font face à ces troubles de l'expression?
C'est vraiment créer un climat de tranquillité, de sérénité, parce que sinon ça augmente les difficultés de langage. Prendre le temps et se dire que si on n'a pas le temps, peut-être qu'il faut différer la communication avec la personne, mais de se dire qu'on a le temps, qu'on ne va pas s'impatienter, qu'on ne va pas vouloir parler à sa place. Vraiment, se donner le temps. Après, c'est aussi utiliser des médiations. On peut faire quelque chose ensemble, partager une activité sans forcément que tout repose sur la communication verbale. On peut vraiment être ensemble, partager sans forcément se parler, ou en tout cas que ça ne soit pas au cœur de la relation. Et puis, il est important, en tout cas au tout début de la maladie, qu'il y ait une prescription de prise en charge orthophonique pour que la personne ait un endroit où elle va, alors on rééduque pas le langage, mais pouvoir le mobiliser le plus longtemps possible, tout ce qui est préservé et qui est vraiment là un soutien professionnel qui soit proposé.
Et puis, dernière question, Judith, qui va toucher encore une fois à l'autonomie. Mais à quel moment est-elle en jeu? Car finalement, on peut le dire, ne plus parler, ça peut devenir dangereux.
Oui, bien sûr. Ça peut faire qu'on ne puisse plus alerter sur une difficulté, sur un ressenti, sur... Oui, c'est sûr.
Merci beaucoup, Judith Mollard-Palacios, de nous avoir accompagnés tout au long de cette nouvelle émission.
Merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Il sera consacré à un autre symptôme, les troubles des fonctions exécutives. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de votre fidélité. Comme toujours, vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou la page Facebook de l'association. Et puis, vous pouvez réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio. Je vous donne l'adresse www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.